À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.
Bonsoir Alain, bonsoir Dominique, bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Voilà,
bonsoir pour la dernière fois.
La dernière émission.
De la saison.
Avant les vacances.
Oui, oui,
oui. Vacances. Oui. On sera peut-être encore là pour reprendre en septembre.
Ah, ben si, c'est sûr, je pense. Oui,
il n'y a pas de raison.
Pas de raison.
Bien. Alors, l'Italie, où est-ce qu'elle en est? Elle n'est pas en très. Elle est un peu en. C'est difficile de trouver le mot parce que. Elle est un. Dire qu'elle est en crise, ça n'a pas de sens. Ça veut rien
moins
dire.
Bien que certains, mieux que d'autres.
Oui, mais.
C'est ce qu'on entend toujours.
Tout est brassé en Italie actuellement. Bon, économiquement, elle ne va pas bien. Le dernier rapport de l'Istat sur le premier trimestre 2012 montre que c'est le plus mauvais depuis 2009. Oui. C'est le plus mauvais trimestre depuis 2009 pour l'économie italienne. En 2009, on avait enregistré une baisse de 3,5% par rapport à la même période de l'année d'avant. Et là, on a une baisse tendancielle de 1,4-1,3%. Et tout diminue, les importations, les exportations, les achats des familles, donc les consommations. Et il y a une récession qui commence à s'amorcer, qui est estimée à 0,8%, moins 0,8%, ce qui est quand même beaucoup, même nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais ça touche tout, ça touche les activités commerciales, les activités touristiques, donc les hôtels, etc., les transports, les communications sur un moins 1%, le crédit, tandis qu'il n'y a que l'agriculture qui augmente un peu, y compris dans ses exportations. Alors c'est un aspect, il ne faut pas s'affoler pour ça.
S'affoler pour l'Italie peut-être, mais il faut s'affoler pour tout le monde, parce que
oui, mais
qui va bien.
Moi, voilà.
On entend même que la Chine commence à mal aller.
Oui, alors, oui, là, ça, l'Allemagne ne va pas bien.
L'Allemagne, sur l'Allemagne, c'est un habillage perpétuel. On sait très bien que l'Allemagne ne va pas si bien que ça. Si l'Allemagne est excédentaire en balance commerciale, l'Italie aussi d'ailleurs. La France ne l'est pas. Les dettes de l'Italie sont supérieures par contre aux dettes de la France. Après, ouais. D'autres pays, c'est l'inverse. Mmh. L'Espagne va très mal. 25% de chômeurs pour un pays développé, c'est quand même énorme.
Oui, en Italie, il n'y en a que 10%.
10%, ce qui est déjà beaucoup. Mais
un peu moins même.
On en arrive maintenant justement qu'un chômage à deux chiffres va devenir finalement pas grave s'il est juste au début, alors que c'est quand même beaucoup aussi. Non, c'est une vraie problème. Alors après, même les... Il faut même se méfier des pays qu'on dit aller bien. Je me souviens, il y a 3-4 ans, si on se replonge dans des analyses, l'Angleterre et l'Espagne étaient pris comme exemple. Mmh. Alors tous les deux vont très mal. Mmh. L'Angleterre un peu moins que l'Espagne, mais elle ne va pas bien non plus.
Hein. Non.
Tout le monde allait en Angleterre parce que pour des tas de libertés d'entreprendre, pour des tas de choses. Et puis on voit le résultat maintenant. Hein. Non, je crois que c'est un vrai problème.
Hein. C'est un vrai problème, mais... Il ne faut pas exagérer l'état de crise de l'Italie non plus.
Voilà, parce qu'après, on se demande si ce qui est véhiculé va réellement servir, en fait.
Absolument.
C'est toujours le problème psychologique de tout ce qui est médiatique.
Non, puis il faut tenir compte du fait que l'Italie est en pleine mutation politique.
Ah, complète, là.
Berlusconi a été vidé, mais il a toujours... son groupe au Parlement.
Oui, parce que l'Assemblée était...
Et actuellement, il y a des bagarres terribles à l'intérieur avec le gouvernement, parce qu'il y a des mesures de Monti qui déplaisent profondément au Parti de la Liberté, au Parti berlusconien, Et
c'est pas Monty n'est pas un grand plaisantin. Hein.
Et Monty, non, c'est un technicien qui fait ce qu'il faut faire. Il se préoccupe pas beaucoup finalement, mais ça provoque un désordre dans
Bien
le
sûr.
Pays, un flou, une incertitude. Et on a actuellement une reprise des, par exemple, des attentats de l'action de la fameuse fédération anarchiste italienne, la FAI. Qui inquiète beaucoup sur le plan technique la police, parce qu'on n'en connaît rien. Mmh. On suppose qu'elle est originaire de la Toscane, mais il recommence à tirer, au fond, comme le faisaient les Brigades Rouges dans les années 70. Ils ont tiré sur un dirigeant d'entreprise, ils l'ont blessé aux jambes.
Oui, c'était une technique, les jambes de...
Ah ben, on gambisait.
On gambisait, voilà.
Et puis après, on a remonté, on a haussé le tir, comme on disait, et on a tué. Ça crée un désordre dans des activités aussi ludiques, qui devraient être ludiques, comme le football. Il y a des bagarres stupides. Enfin, à Turin, la Juve est déclarée officiellement avoir 28 médailles de championnat d'Italie. Parce qu'elle avait été
28 titres,
supprimée. Oui. On lui avait supprimé ses médailles en 2005-2006 pour faute professionnelle manifeste. Et elle affiche 30. Alors, bon, c'est stupide, enfin. Mais ça crée des réactions dans tout le public, des fans. Et un footballeur sérieux comme Dino Zoff, l'ancien gardien de but de l'équipe d'Italie, disait récemment « Le football est le miroir de ce pays. L'Italie ne vous semble-t-elle pas grise, triste, corrompue, sans plus aucune trace d'éthique et de moralité ?» Ce qui est la situation du football. Il est complètement corrompu.
Le football mondial, il y a longtemps qu'il est corrompu.
On achète les arbitres, on achète les joueurs, on leur donne de l'argent pour qu'ils lèvent le pied, pour qu'ils ne marquent pas de but, parce qu'il y a des mafias qui ont parié sur l'équipe.
Ce qui est drôle là-dedans, enfin, si on peut dire drôle,
etc.
C'est que ça se fait maintenant avec Internet. Tous les pays parient sur tous les championnats et ne parient pas sur les fraudes, entre guillemets, ne sont pas sur les matchs, les grands matchs, mais sur des matchs de seconde zone.
Oui.
Ce qui paraît plus facile à truquer, en fait.
Voilà, bien sûr. Ça ne se voit pas.
Et par contre, avec Internet, les paris en ligne existent sur tout pays et pour maîtriser tout ça.
Il y avait des investissements chinois.
Ah, ben bien sûr. Suisse même.
Oui.
dans les paris truqués.
Suisse, c'est à côté. C'est... mais des investissements chinois pour faire truquer des parties de football. Donc, c'est un peu la situation de l'Italie. On est dans cette situation de transition. On n'est plus dans le berlusconisme, mais Berlusconi est toujours là avec son groupe. Il commence à réintervenir de temps en temps pour dire « moi », etc. Le Parti démocrate n'est pas encore assez stabilisé. Il y a cette opposition de gauche un peu mélenchonienne de Beppe Grillo, qui fait aussi souvent n'importe quoi. Espérons que les maires qui ont été élus du mouvement 5 étoiles seront plus sérieux que leur grand leader, quoi. Alors il y a des bagarres sur les journaux. Il est populiste, écrit un journal, il dit non, je ne suis pas populiste, etc. Bon. Tout ça crée une situation d'incertitude. Dont on n'est pas exempt nous-mêmes.
Non, puis en Europe.
Mais pour terminer, avant d'écouter une chanson, il semble, on ne va pas parler des élections françaises, ce n'est pas notre sujet, mais il semble que les électeurs se prononcent pour un changement. Mmh. En ce qui nous concerne, on espère aussi en un changement que le nouveau ministre de l'Éducation nationale et le gouvernement vont cesser de faire des paris pédagogiques sur l'enseignement de l'allemand dans les établissements scolaires et qu'on va redonner aux autres langues, à l'espagnol, à l'italien et en particulier à l'italien qui est défavorisé actuellement, les mêmes possibilités qu'aux enseignants d'allemand, qui actuellement sont privilégiés, peuvent ouvrir des classes avec 6 élèves, par exemple, et parce que les crédits de l'allemand sont comptés à part, donc on peut ouvrir une classe d'allemand, ça ne diminue pas les crédits généraux, et le chef d'établissement n'est pas gêné. Et ceci d'autant plus que pour nous, on a fait un pari de développement de l'italien avec le lycée Gambetta, on en reparlera tout à l'heure. Et c'est un changement qu'on aimerait bien voir s'affirmer. Alors, on écoute une chanson ?
Oui.
Puisqu'on a eu Bertel...
On continuera à chanter, hein, faut pas...
oui, on ne veut pas changer sur ce terrain. Puisqu'on a eu Bertel... On écoute une de ses nouvelles chansons qu'il a chantées mercredi dernier, Il custode della miniera, le gardien de la mine.
Le nouveau Bertel est un bon cru.
Oui. c'est tiré de son dernier disque, qui est de quelques mois, qui s'appelle précisément Il custode della miniera. Et c'est l'histoire de celui qui fut le gardien de la mine de charbon de Marcinelle en Belgique, alors on a dit longtemps que c'était qu'il y avait eu un coup de grisou en 1956, c'était en réalité un incident mécanique qui était dû à l'insuffisance technique organisée par le patronat de Marcinelle.
C'est curieux dans les catastrophes qu'on habille. Souvent.
C'était pas du tout un coup de grisou.
Non.
C'était un incident mécanique qui était prévisible parce que pour faire des économies, le patronat de Marcinelle avait mal entretenu les... Alors, il parle des travailleurs italiens de Marcinelle. Il y en a eu 136 quand même qui ont été tués dans cet accident. Et de celui qui était gardien de la mine et qui est revenu sur la mine et qui rappelle le souvenir de ces victimes d'une industrialisation sauvage.
Ma tu lo sai quanto vale un franco belga, poco più di 10 lire italiane. 175 franchi al giorno, ci puoi comprare quello che ti pare. Vale davvero la pena di rischiare, non mi importa se poi io non ritorno. In questo mondo non voglio più campare, siamo già morti qua, guardati intorno. Così diceva Carmelo il siciliano, che ha lasciato a Catania 7 figli. Anche Lorenzo Veneto Montanaro dice di sì, disteso tra i giacigli. Rocco il Calabro sembra non ascoltare, guarda lontano verso la terra amata. Sono 3 anni ormai che l'ha lasciata e non dispera mai di ritornare. Guerrino è arrivato da 3 giorni, laggiù a Milano lo hanno trattenuto, medici belgi lo hanno visitato, erano incerti che vien dagli altiforni. L'uomo carbone deve essere robusto, 35 anni d'età e non più vecchio, e di ottima salute aver goduto, se vuol poter entrare in quell'inferno. E chi l'inferno aveva già conosciuto, davanti ai forni oppure nelle miniere, sapeva dove avrebbe ancora vissuto, o forse dove andava per morire. 10 giacigli in baracche di lamiera, d'inverno fredde ed estate come il fuoco. Senti che l'aria ti manca poco a poco, è sempre notte di giorno e anche di sera. E ti accompagna nel sonno la miniera, nero nel muso, nel cuore e nelle mani. Per 5 anni quassù dovrai restare, ma per molti non ci sarà un domani. E questo è il prezzo che dobbiamo pagare. Ognuno di noi vale 3 quintali di carbone ogni mese da mandare per la rinascita di tutti gli italiani. L'Italia cresce, noi ci danno a morte a una vita che è peggio d'animali. A casa nostra, anche qui, la nostra sorte è solo quella di chi non ha domani. Se li ricorda uno a uno i suoi compagni, il custode della pena e del rimorso, Galvan di nome, Angelo di fatto, è tornato nuovamente al suo posto. Aia! È tornato alla miniera del cuore amaro, così la chiama la gente che c'è entrata, giorno e notte, notte e giorno a scavare, a rubare alle viscere la giornata. Marcinel, nome che Italia ha gridato in tutti i suoi paesi dilaniati, da un dolore immenso e inconsolato di madri e figli per sempre abbandonati. Furono 100 e altri 100 e 100 ancora i compagni, la morte, assassinati da una miniera vecchia e insicura. Solo 7 di loro si sono salvati, donne, bambini, uomini disperati, per giorni e giorni piangono i loro cari dentro a quei pozzi fondi abbandonati, per sempre con i musi ancora più neri. Aia, aia. Aia, aia. Questo angelo tiene nel suo cuore il dolore più tragico e profondo, e al mondo che vuol dimenticare ricorda quanto in quel giorno ha pianto il mondo. Suona una campana Marcinel, sempre più sola nella mattinata, suona rintocchi lenti a martello, suona e si perde giù per la vallata, dentro le gallerie ormai svuotate di ogni vita da una tragedia immane, in tombe nere mai dimenticate dal custode che con loro la rimane. Suona la campana Marcinel dentro a gallerie già svuotate, per quelle tombe mai dimenticate dal custode che con loro la rimane.
Voilà, c'était
Gualtier Robertelli,
il custode della miniera.
On voit qu'il a beaucoup travaillé sur l'Amérique du Sud. Quand même. Dans le rythme de la musique, on sent qu'il a travaillé avec des musiciens aussi d'Amérique du Sud dans ses recherches. Ouais. Oui, Gualtier, qui était donc qui est venu le 6 juin à la maison du Conseil Général,
ouais.
Et qu'on avait organisé avec le soutien de la mairie et du conseil général, et la salle était bien remplie. Je pense que tout le monde était content. C'était un concert où il était accompagné.
C'était un grand concert.
Grand concert, qualité, texte de qualité, musique, bien accompagné aussi par Simone
Nogarin,
qui est musicien, mais qui est aussi restaurateur de tableaux de son état.
Oui.
Qui a tous les talents.
Un restaurateur de meubles.
De meubles de tableaux, aussi. Et je crois, enfin Dominique, je pense que tu en as pensé, mais c'était un bon concert. Alors nous, on le connaissait déjà, on l'avait vu il y a une 20aine d'années d'autres fois, puisqu'il était venu 2 fois déjà à Bourgoin, et puis on le connaissait, mais tu le découvrais là.
Moi, je l'ai découvert, j'ai eu l'impression d'une musique qui parlait à tout le monde, qui savait parler à tout le monde.
C'est vrai.
Soit intellectuel, pas intellectuel, artisan par artisan, c'est une musique qui parle au cœur et qui est assez extraordinaire, qui dit beaucoup de choses de l'humanité, je trouve.
Absolument.
Hein, du fait humain.
La musique et les textes aussi.
La musique et les textes, bien sûr,
je
mets les deux.
Là, la projection des textes au-dessus du
chanteur
en traduction, c'était, les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié. Je crois que c'est quelque
bon
chose
à savoir.
Qu'il faut développer.
C'est une technique formidable. Après, c'est effectivement la salle s'y prêtait. C'est-à-dire qu'il faut être équipé.
La salle est magnifique.
Il faut que la salle soit équipée.
Et il a aussi cet aspect didactique où il explique bien le contexte de ses chansons, le pourquoi.
Oui, il explique lui-même aussi ce qu'il fait, ce qu'il pense. Et son intervention sur son enfance, sur sa formation musicale...
Il n'avait pas le choix d'être autre que d'être musicien, finalement.
Et puis, il fait ça avec une simplicité, et il a un sens du contact avec son public...
Impressionnant.
Qui est étonnant, quoi.
Oui.
C'est pas du tout la star qui joue sur une scène lointaine, ni qui fait du spectacle. Il était là avec son public, il parlait aux gens, dans son français... extrêmement pittoresque, mais qu'on comprenait.
Ah, qu'on comprend bien. Oui,
mais qui est très amusant.
Ouais. D'ailleurs, il, même dans la rencontre de la veille, puisqu'on avait fait une petite rencontre à ceux qui voulaient bien, sur sa proposition d'ailleurs, le rencontrer pour parler musique, on sentait qu'il voulait absolument parler en français. Il avait un besoin de l'exprimer, ce qui est... Non, il a beaucoup.
Alors, le drame, moi, j'en suis toujours frappé, c'est que on organise ce concert, on a fait le maximum pour que les Bergaliens, les gens des environs soient informés. Mais on n'en parle pas ailleurs. J'ai encore reçu ce matin le mensuel qui s'appelle La Voce. Pratiquement, on ne parle que des manifestations organisées à Paris ou dans les environs de Paris. Ce qui se passe en province, ça n'existe pas. Alors, comme les journalistes locaux sont souvent, je ne vais pas les qualifier, mais le Dauphiné Libéré, vendredi dernier, a publié un article sur l'apéritif de 19h organisé par le maire, parce qu'il est venu au moment de l'apéritif, bien sûr. Et puis, il m'a interviewé 10 minutes avant le concert. Et son article rend compte de ce qu'a dit le maire de Bourgoin et ce que j'ai dit pendant l'apéritif. Et il conclut en disant « L'apéritif était suivi d'un concert de Gualtiero Bertelli ». Il n'a pas dit un mot du concert pour la bonne raison qu'il n'y a pas assisté. Non, c'est une conception du journaliste qui est invraisemblable. Invraisemblable. Alors peut-être qu'il était payé pour faire autre chose le soir. Je ne le mets pas en cause. Mais voilà, c'est un article.
Je suis pas sûr que c'est... Enfin, pour être complètement honnête, je crois qu'il faut distinguer les journalistes et les correspondants. Les correspondants de presse gagnent quasiment rien, il faut le savoir.
D'être correspondant, autant qu'ils soient sérieux.
Non, mais c'est sûr. Mais on leur demande souvent, dans la même soirée, de couvrir trois manifestations, quatre. Après, ça n'empêche pas, effectivement, le compte-rendu, etc. Ça, je suis archi d'accord. Mais je pense que c'est un problème, mais ce n'est pas l'unique problème. Un autre problème qu'on peut aussi soulever, c'est celui des problèmes de petites associations pour organiser des choses. Parce que, on le sait tous les trois, mais pas que tous les trois, pour organiser un concert de ce type, dans une salle de ce type, avec les techniques que tu expliquais de traduction et autres, c'est très lourd. Très lourd, ça demande un investissement énorme. On remercie la mairie d'avoir offert l'apéritif, mais ça demande un investissement énorme qu'une petite association fait ou en dehors de son travail pour ceux qui travaillent, ou ceux qui ne sont plus en activité professionnelle, ils ont aussi des choses à faire. Et ça demande un investissement énorme. On fait un concert gratuit pour essayer de faire connaître la personne, qu'on prend sur nos propres budgets, il faut quand même être clair. Et derrière, on a des démarches administratives, comme si on organisait un concert au Parc des Princes, quoi. Et on nous réclame des tas de choses. Et je crois qu'un jour, il va falloir quand même aussi se pencher là-dessus, parce que c'est pas normal. C'est absolument pas normal.
Et puis le résultat, Bertelli, qui est un grand chanteur italien...
Qui chante ses propres chansons.
Et qui chante, bien sûr, et qui est un grand compositeur aussi, bien sûr. Mais il passe à Bourgoin. Ça ne le fait pas connaître, en dehors de Bourgoin.
Oui.
Un artiste médiocre, éventuellement, passe à Paris. On en parle. et il est connu. Alors, ça détermine une corruption du public en France qui, pour moi, est une chose importante et catastrophique. Parce que les gens s'habituent à ce qu'on leur fait. Ce dont on leur parle, ils vont... Ah oui, je suis allé au concert de machin. T'es allé au concert de Bertelli, qui c'est celui-là? Je connais pas.
Je crois qu'il y a beaucoup à réfléchir sur la communication de ce genre d'événement. J'ai pas de solution à proposer, malheureusement, mais je pense qu'on n'utilise pas toutes les possibilités. Il me semble qu'avec Internet, bon, Couleur FM, par exemple, travaille avec Facebook, oui. Il y a peut-être d'autres modes de communication mais à inventer.
Finalement,
pour toucher davantage de monde. Il faut essayer, en tout cas, je pense.
Là, le monde, mais sincèrement, on a eu...
Mais il y avait déjà beaucoup de monde.
Parce que si on écoute autour de nous ce qui se passe dans la région, on va dire notre région Nord-Isère, à part les grosses cylindrées habituelles qui ont des moyens énormes et qui est de publicité et qui fonctionnent sur abonnement pris d'assaut, et pourquoi pas, hein, c'est pas du tout ça le problème. Mais les autres structures, et pas qu'ici, hein, de partout, même avec de la publicité, ont du mal à avoir plus de 50 personnes. Donc il y a quand même quelque part, il y a quelque chose. Ça peut être la communication, c'est pas que ça, je pense. Il y a effectivement ce que tu disais, peut-être le nom connu ou pas connu, ça joue, c'est évident. Et puis moi je reviens à ce problème quand même lourd d'administratif ou autre, où un gars vient, on fait une entrée gratuite, il chante ses propres textes, il vient par amitié, et on nous demande encore derrière de justifier des tas de choses, des trucs, comme si on était des brillants du coin. Enfin, c'est quand même étonnant, quoi.
Oui, mais je crois qu'il y a vraiment dans ce domaine, je ne sais pas ce que fera Aurélie Philippe Petit quand elle sera définitivement ministre de la Culture, mais il y a réellement une politique culturelle à penser, mais y compris dans une ville comme Bourgoin. Que font les grandes institutions? Comment fonctionnent-elles? Je ne veux pas citer de nom, mais les institutions, les abattoirs, le théâtre de l'île d'Abeau, etc. Comment ça fonctionne? Qui y font venir? Comment ils sont en communication avec les gens? Et ils arrivent à tourner comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire culturellement? Qu'est-ce que ça forme? Quel public ça contribue à conscientiser? Il y a une réflexion à mener là-dessus qui est énorme.
Bon. Enfin, allez. Bref, on était bien contents.
Ça a été un grand concert. Et tous les gens qui étaient là étaient extrêmement heureux parce qu'ils ont découvert... l'humanité de ce que ils ont changé, ils ont appris des choses, c'est pas intellectuellement mais affectivement, et ils ont beaucoup apprécié la poésie par exemple textes de Bertelli.
Les textes sont magnifiques.
On écoute une chanson, Alain.
Oui, alors on va toujours rester en Vénétie, mais au pied du massif de Grappa, hein, vers les collines, le plateau d'Asiago, Arzolo, etc. Et c'est une interprétation qu'on va avoir par Roberto Tombesi, Ciuma et Salvi, qui eux aussi sont de grands bonhommes qu'on a essayé de faire découvrir petit à petit ici. Qui, dans ce trio, est un trio d'accordéon diatonique. Chacun appartient à un propre groupe, mais là, ils se réunissent ils se réunissent depuis longtemps, de temps en temps, pour faire ce trio. Et là, donc, cette chanson, elle avait été inspirée aussi par le groupe Abies Alba de Trento, qui est vraiment un beau groupe aussi, de Mauro Odorizzi. Donc, c'est une chanson d'amour. Hein. Chaque jour, tu passes le soir le pont et je ne réussis pas à comprendre si tu me regardes. Chaque jour, je te suis et je suis enchanté. Dans les paroles que je voudrais te dire, ce serait « Oh, ma belle, je te vois de loin. J'aimerais bien te faire l'amour si je pouvais. Je t'attends cette nuit près de la roue du moulin. En dehors du bois, je t'apporterai du vin et une rose noire pour la mettre dans tes cheveux, et tes yeux me rendront la nuit plus claire, et j'oublierai tous mes soucis, oh ma belle, je te porterai des étoffes de soie orientale, brodées avec du fil d'or, et l'herbe de la nuit nous enveloppera, enfin nous, comme la mer, et ta peau blanche de lait, oh ma belle, et le bois est en train de s'endormir, et même le vent ne fait plus de bruit, etc., etc. C'est donc une chanson d'amour du trio Ciuma Salvi Tombesi. Tombesi et le texte Musique et paroles a été écrit par, composé par Roberto Tombesi.
On l'écoute.
Del sole al ponte non capisco, si teme vardi. Ogni giorno te seguo e poi me incateio fra i parole che te voria dir. Oh bella mia, te vedo lontan, te faria l'amore se potesse. Te aspetto stanotte a roda del mulin, pena fuori al bosco dei salgari. Te portarò vin e una rosa nera per metterla nei tuoi capelli. I tuoi occhi a notte me farà ciaro ed smentegherò me pensieri. Oh bella mia, te vedo da lontan, te faria l'amore se potesse. Te aspetto stanotte a roda del mulin, pena fuori al bosco dei salgari. Te portarò scialli de seda oriental, ricamai col filo d'oro. E l'erba di annotte non bagnerà la tua pelle bianca del latte. Oh bella mia, te vedo da lontan, te faria l'amore se potesse. Te aspetto stanotte a roda del mulin, pena fuori al bosco dei salgari. Ed esso il bosco si drio dormir, e gnanca il vento fa più rumor. Soltanto un tocco di luna per mie di stanotte. Metti le vesti più belle e lisiere e lasciai che avvei moradi. Un salvanello te roberà per non lasciarle più scampar via. Oh bella mia, te vedo da lontan, te faria l'amore se potesse. Te aspetto stanotte a roda del mulin, pena fuori al bosco dei salgari. Ed esso il bosco zedrio dormir, e gnanca il vento fa più rumor. Soltanto un tocco di luna par mieti stanotte.
Voilà, ça mérite effectivement des applaudissements. Puisqu'on est dans le, à la limite du Trentin, je voulais signaler que une délégation de Saint-Marcel-Bel-Accueil, la commune voisine, va se rendre le 29, 30 juin et 1er juillet dans la région de Belluno, plus précisément dans la commune de Gosaldo, pour continuer à discuter et à lancer les bases d'un jumelage. Alors la délégation de Gosaldo était venue à Saint-Marcel-Bel-Accueil en fin d'année 2011, et donc il y a un suivi, les contacts commencent à établir. Ce sont des contacts qui sont progressifs, ce qui est pas mal du tout lorsque deux communes veulent se rapprocher, au lieu de faire tout de suite des grands événements. Il faut d'abord... Les jumelages, c'est pas si simple que ça. Je crois qu'un bon jumelage, c'est pas du tape à l'œil. Il faut que tout suive, niveau culturel, scolaire, sportif, artisanat, enfin bref. Donc la délégation se rend là-bas. Alors Gosaldo, c'est à la limite du Trentin, c'est en Vénétie. c'est dans la province de Belun, c'est un petit village qui a 800 habitants. Et pour la petite histoire, ça explique un peu la désertification de montagne, c'est un village de montagne. Il y avait, en 1860, il y avait près de 3000 habitants dans cette commune. Et beaucoup de gens de cette commune ont émigré, notamment en France, et dans nos régions en particulier, et dans le centre de la France. Et c'était une région de chaisiers, de mines et d'artisanat en général. Et puis, bon, dans les années 30, la misère s'y était installée. Certains sont revenus. Donc, ce qui fait que dans ce village, il y a quelquefois, on rencontre quelqu'un qui parle français, qui travaillait à Bourgoin, la Côte Saint-André. C'est assez curieux. Donc, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est à très peu de distance de Gosaldo, il y a la ville d'Agordo, qui elle aussi est jumelée avec Dolomieu. Mmh. Donc, dans cette région, il y a un vrai échange avec le Nord-Isère. Agordo, qui a invité d'ailleurs Dolomieu à participer fin septembre à la foire de Longarone, qui est dédiée aux Dolomites en général, puisque les Dolomites étant patrimoine de l'UNESCO, il y a une fête chaque année autour de cet événement. Et donc Agordo vient de lancer à Dolomieu une invitation pour avoir un stand à l'intérieur de cette foire où il y a vraiment énormément de visiteurs, mm-hmm. pour avoir un stand dédié évidemment à Dolomieu et à Déodat Dolomieu, le géologue. Voilà, c'est une parenthèse que je voulais faire, parce que dans des petits villages comme Saint-Marcel-Belle-Accueil, qui n'est pas non plus une grande commune, mais il y a des gens actifs qui font bouger les choses.
Alors, je prolonge ta parenthèse pour rappeler le travail qu'on fait actuellement sur l'immigration
Absolument.
Italienne dans le Nord-Isère, sur laquelle il n'y a jamais eu d'études systématiques. On a déjà interviewé beaucoup d'immigrés italiens ou de descendants d'immigrés. Mmh. On en a encore vu un hier, qui a une histoire étonnante, un fils de paysan qui vient à Bourgoin, qui va au lycée professionnel de Bourgoin, et puis qui fait l'école Boulle, et qui devient un grand coloriste, restaurateur, designer. Et
sans entrave aucune, au contraire, avec l'encouragement des parents, qui étaient des gens modestes,
qui étaient
mais très ouverts.
Des paysans. Et qui a acquis par sa mère, qui était une paysanne, un sens très italien, très vénitien en particulier, de la couleur. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit c'est passé dans les gènes, manifestement, parce qu'il n'y avait aucune culture universitaire dans sa famille.
Un sens de la musique par le papa.
Et puis un sens de la musique par le papa qui chantait, etc.
Voire du vin, puisque le papa avait une petite vigne sur les collines de Funa.
Ouais.
Et lui a répété au Blanc-Mesnil ses souvenirs d'enfance. Et il a une vigne au Blanc-Mesnil, ce qui est quand même assez original.
Oui.
Non, c'est... Et des histoires comme celles que l'on a effectivement entendues hier, on en a plusieurs. Et il y a des choses étonnantes. Et bon, et ce travail se fait souvent avec des gens qui effectivement venaient de villages, dans d'autres villages ou dans de petites villes.
Donc s'il y a parmi nos auditeurs des Italiens ou des descendants d'Italiens que l'on pourrait interviewer, il faut penser que recueillir cette mémoire des immigrés italiens est important, parce qu'elle ne va pas se prolonger indéfiniment. Et il ne faudrait pas qu'elle se perde. C'est un aspect de notre histoire.
Et sans faire de grandes phrases, on le savait avant, mais en rencontrant tous ces gens, je pense qu'on comprend quand même aussi beaucoup mieux ce qui nous entoure. Quand même.
Bien sûr.
Que finalement, les histoires se ressemblent aussi.
Bon, alors Dominique, vous nous parlez de littérature contemporaine.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, donc, la Nota Segreta de Marta Morazzoni, qui est parue en 2010 chez Longanesi, La Note Secrète, qui vient d'être traduite chez Actes Sud. C'est un roman historique de 301 pages, avec une traduction de Marguerite Pozzoli, qui est une traductrice chevronnée, puisqu'elle a traduit Anna Maria Ortese, Cesare De Marchi, Roberto Saviano, Stefano Beni, etc. Alors, cette Marta Morazzoni, qui est-elle? Elle est née en 1950... Elle a fait des études à la faculté de philosophie de Milan. Elle s'est également intéressée à l'anthropologie culturelle. Elle a même rédigé un travail sur les Esquimaux. Elle est passionnée par le théâtre. Elle a été un moment critique de théâtre. Grande lectrice de Proust, y compris dans le texte original, elle s'est découvert une passion pour l'écriture, qu'elle se refuse pour autant à considérer comme un métier. Elle est actuellement professeure de lettres dans un lycée technique à Gallarate, dans la province de Varese. Elle a écrit 9 romans, tous publiés par Longanese, parmi lesquels La jeune fille au turban, qui a été traduit chez POL, et L'affaire Alphonse Courrier, chez Actes Sud. Elle a découvert Pavese à 26 ans. Chez Bocas, elle aime tout particulièrement le plaisir d'écrire et de raconter une histoire sans aucune arrière-pensée, et surtout pas celle de donner des leçons. La note secrète a obtenu en 2010 le prix Alessandro Manzoni. Alors, quelle est l'histoire qui retrace ce livre ? Paola Pietra, une jeune aristocrate, est enfermée à la demande de son père dans le monastère de Sainte-Radegonde à Milan. L'histoire se passe en 1736. La jeune femme manifeste un talent extraordinaire pour le chant. Sa voix de contralto sombre et puissante attire les foules bien au-delà de la ville puisqu'on la connaît à Rome. Cette voix qui dérange l'abbesse du monastère émeut un diplomate anglais qui un jour se précipite dans le chœur alors que la jeune femme s'est évanouie. Ce bref contact est le point de départ d'une passion qui va bouleverser la vie de cette femme. Un jour, Paola Pietra disparaît du couvent. C'est le début d'une histoire pleine de rebondissements qui s'inspire d'un fait divers réel. Alors on parle beaucoup dans le roman de musique et notamment de ce chant des religieuses que les gens viennent écouter au-delà des grilles de la clôture. Et j'aime tout particulièrement ce que la romancière nous dit de la musique, non pas tant une exaltation sensuelle que l'expression d'une liberté. Bien sûr, la musique, et tout particulièrement le chant des religieuses qui travaillent leur voix, parle au cœur et s'adresse au sens, mais dans ce livre, elle est un signe de liberté, d'indépendance. C'est ainsi que le voit la mère supérieure, un instrument de subversion en quelque sorte. La note secrète est un roman d'amour entre cette jeune religieuse cloîtrée malgré elle et un diplomate anglais marié, père de 2 enfants. C'est un roman d'aventure qui commence à Milan, se poursuit à Venise, puis sur les mers jusqu'à Marseille en passant par Rhodes pour nous conduire tout près de Londres. C'est enfin un roman historique qui, plutôt que de s'attarder à de multiples détails, qui donne l'impression de restituer une époque, essaye de faire passer une vérité, celle des villes, celle des voyages, celle de l'Église catholique, celle également de la vie dans un monastère. Un petit extrait du livre concernant la passion que j'aime beaucoup. C'est une définition de la passion qui dure et qui renverse tout sur son passage. J'aime à penser aux grandes passions comme à de pesantes machines qui avancent lentement, broyant systématiquement le temps et les espaces, avançant avec la taille d'un pachyderme et qui durent, car elles consomment avec lenteur leurs énergies qui pourtant dépensent sans compter. Se garder des explosions éphémères, même si elles sont pleines de couleurs et de lumière. C'est la chaleur qui s'installe avec lenteur et ténacité entre les fibres que je voudrais reconnaître sous le nom de passion. Au centre du roman, un portrait de femme, portrait formidablement moderne. Cette jeune novice, enfermée malgré elle, revendique simplement le droit de vivre sa vie, le droit d'aimer qui elle veut. Elle refuse la volonté de son père qui a voulu s'en débarrasser. Aucune transgression, elle n'est pas en révolte contre l'ordre monastique. Elle se contente tranquillement de déclarer que cet ordre n'est pas pour elle. Très présente dans le roman, la ville de Milan. Il y avait à l'époque des gens qui aimaient beaucoup Milan. Ce n'était pas, ce ne sera jamais une ville d'un charme aussi immédiat que Rome. Elle n'était pas aussi salubre que Naples. Et nous pourrions continuer longtemps en la comparant aux autres villes italiennes qui la dépassaient. Mais enfin, elle plaisait aux Anglais, du moins à quelques-uns d'entre eux. Du brouillard comme à Londres, mais dans les belles journées, la silhouette toute proche des montagnes enneigées est plus proche encore la ligne des collines entre la Brianza et le Varesotto, chose qu'un londonien n'avait jamais sous les yeux dans sa patrie. Un dernier extrait pour dire cette fascination que la musique exerce sur certaines de ces religieuses. Un après-midi d'octobre, sœur Rosalba Guenzani, dans sa cellule, lisait avec émotion la complexe partition musicale de Pergolese. Elle entendait clairement la mélodie et l'harmonie. Elle entendait les voix qui se mêlaient en même temps que les archets et la basse continue, écrits pour soprano et contralto. Dans la tête de sœur Rosalba, les deux voix, la sienne et celle de son élève, s'élevaient dans le silence du cloître, déployaient leur filigrane harmonique que son violoncelle semblait pouvoir soutenir à lui seul. Elle lut et relut la partition, bénit le parent qui lui avait offert ce bijou, replia les feuillets et se dit qu'elle devait aborder le sujet avec la mère supérieure. Elle prévoyait la réponse, elle prévoyait même le pli des lèvres, le regard oblique et le miel amer de son discours, sévère, compassé, inflexible.
Puisqu'on parle littérature, je voudrais juste évoquer un écrivain italien, Paolo Rumis, qui a été découvert en France lors du Festival littéraire de Saint-Malo.
Absolument.
Et ce Paolo Rumis, c'est un journaliste de La République. Hein. En ce moment, il fait un papier par jour sur son... Il parcourt le Pô à bateau. Alors, il a une originalité, c'est que chaque fois qu'il écrit un roman, il prend un moyen de transport différent, mais chaque fois lui-même. Il a parcouru les Apennins avec une petite voiture Topoline, voilà, une petite Fiat 500. Il fait des voyages à vélo et derrière, il fait un roman. Donc, il rencontre beaucoup de gens, et c'est toujours le fond de ses romans. Et récemment, une amie italienne nous disait qu'elle a voyagé dans les Abruzzes à partir d'un roman de Paolo Rumis, qui tout était extrêmement détaillé. Le moindre voyage, elle a calqué son voyage sur le roman qu'elle venait de lire de lui. Elle a rencontré des gens étonnants grâce à lui, on peut dire. Alors, il y a deux bouquins qui viennent d'être traduits en français. « Aux frontières de l'Europe », qui a été traduit de l'italien par Béatrice Fierne dans les éditions Obeck de la collection Étonnants Voyageurs. Et puis « L'ombre d'Hannibal », c'est le dernier, traduit de l'italien aussi par la même traductrice, Béatrice Vierne, la même édition et la même collection. C'est un romancier intéressant.
Voilà, il y avait un article sur lui dans Télérama il y a trois semaines, effectivement. Oui, oui.
Mais voilà, alors, comme quoi, il semblerait qu'il y ait des gens qui font des voyages à partir de ces romans. Intéressant.
C'est intéressant.
Sur le thème des rencontres, souvent.
Et puis pour terminer avec les livres, je signale simplement un essai qui vient de sortir, qui n'est pas traduit encore. Donc si vous allez en Italie, achetez-le. Ça s'appelle Falsi Amici, Faux Amis, et c'est de Anaïs Ginori. C'est édité par Fandango. Et Anaïs Ginori est la petite fille de Jacques Nobécourt, elle est italienne, mais Jacques Nobécourt, qui a été pendant très longtemps correspondant du Monde en Italie. Et elle fait un parallèle, c'est presque un duel, entre l'Italie et la France. Elle cherche à voir quels sont des rapports qui ont été souvent conflictuels et ou faussement amicaux, comme les rapports entre Berlusconi et Sarkozy, qu'elle cite. Et c'est intéressant de voir comment aussi... elle vient d'une famille française qui s'est longtemps installée en Italie. Comment, de deux points de vue, au fond, on voit la réalité actuelle de la France et de l'Italie. Anaïs Ginori, Falsi Amici, chez Fandango. Et ça vient de sortir.
On écoute un nouveau titre, un ancien titre de Gualtiero peut-être, puisqu'on a écouté...
Nina ti te ricordi, voilà. Qui a été la chanson, une des chansons qui l'ont lancée dans les années 70, qui ont été reprises. C'est l'évocation de son amour pour Nina. Ils étaient fiancés, mais ils ne savaient pas où se rencontrer. Donc, ils se retrouvaient sur les quais. Il va évoquer ça dans plusieurs de ses chansons. Et puis, ils sont restés fiancés pendant 6 ans, parce qu'on ne pouvait pas se marier. Et ils étaient empoisonnés par le prêtre de leur paroisse qui leur disait qu'il ne fallait pas commettre de péché. Et tellement que quand ils se sont mariés, il avait l'impression qu'il commettait un péché. Et puis il termine en disant « Maintenant tu attends un fils et la vie est encore plus dure. Et tu attends un fils et moi je suis chômeur. »
Et quelques années après, il disait que les temps étaient durs à cette époque-là de la chanson.
Oui.
Mais que finalement, ils avaient encore un peu d'espoir et qu'ils n'avaient peut-être plus, plus les convictions, en tous les cas, une douzaine d'années après.
Et à cette époque, ça a alimenté la lutte. Il y avait une lutte sociale réelle, une lutte syndicale importante à Venise, et Bertelli en a été un des participants. Voilà, Nina ti te ricordi.
Nina, ti te ricordi quanto che avemo messo andare su sto tocco detto insieme a far l'amor siani affari morosi a strenger la franco su franco e mi chiesero stanco ma non te volevo toccar to mare che pronto ava quando che se sposemo e il prete che raccomandava che non se doveva peccar e dopo se semo sposai che quasi no che credeva te giuro che a me pareva fare fin che fosse un peccato. Adesso ti spetti un figlio e ancora vita se dura. A volte me ciapa e ha paura di aver dopo tanto sbagliato. Amarsi non se no un peccato, manco se un lusso de pochi. E intanto ti Nina ti spetti e mi so disoccupare. E intanto ti Nina ti spetti e mi so disoccupare.
Gambetta?
Eh bien, Gambetta, effectivement.
Puisqu'on les a évoqués tout à l'heure pour la langue italienne, et on est dans l'actualité.
On reçoit 11 élèves d'un lycée de Fossano, dans le Piémont, le lycée Giancarlo Valauri. Donc, ces élèves sont en quarta igea. Donc, ce sont des élèves qui suivent une formation tertiaire, plutôt générale. Et qui sont très heureux, nous a-t-on dit, de venir séjourner en France, essentiellement pour un séjour linguistique, et puis pour la découverte d'un milieu professionnel autre qu'italien. Donc ils sont hébergés par des familles, et à ce sujet, on doit remercier infiniment l'INIS qui nous a prêté plus qu'un simple coup de main, puisque la plupart des familles qui hébergent ces élèves sont des familles adhérentes à l'INIS, donc merci l'INIS. Et puis eh ben, nous avons réussi, le chef d'établissement nous a beaucoup aidé là-dessus, à trouver des lieux de stage pour tout le monde, ce qui n'était pas évident parce qu'on s'y est pris un petit peu au dernier moment. Donc voilà, ça va bientôt démarrer, demain.
Ils arrivent demain.
Mmh. Et ils restent jusqu'au 30 juin. Et ça va nous permettre, ça, de les avoir accueillis, ça va nous permettre d'envoyer quelques-uns de nos élèves qui font italien l'année prochaine, dans le cadre d'un projet Leonardo a Fossano, mm-hmm. pour un stage qui sera, lui, évalué professionnellement.
Très bien.
C'est bien, c'est bien. Et puis peut-être que ce projet-là peut en amener d'autres si
c'est un
si
petit peu, c'est un petit peu ce qu'on a en tête. On est en train de travailler sur un gros projet qui s'appelle Comenius Regio, donc qui pourrait être effectivement très intéressant parce que nous permettant de développer d'autres partenariats encore avec l'Italie. Très bien. Alors, avant de... Juste une indication. Je voulais signaler aux auditeurs que Linis vient de rééditer son cahier pour mieux comprendre Venise, son histoire de son art, qui vient de ressortir, corrigé, amplifié, et on peut l'acheter à Linis pour le prix de 10 euros. Et puis, je signale à ce propos la pétition que nous avons lancée contre le passage des grands paquebots dans le canal de la Giudecca, parce qu'effectivement, ils y font du dégât. Hier, on a signalé une bourrasque terrible qui a renversé des quantités de bateaux, à Venise précisément, et on imagine ce qui se passerait si un de ces paquebots
de
15 étages
se renversait comme c'est arrivé à Giglio, à l'île de Giglio, dans le canal de la Giudecca. Ça serait pour Venise une catastrophe pratiquement irréparable. Donc vous pouvez signer cette pétition auprès de Linis.
Et puis si les auditeurs ont été séduits par les chansons de Gualtiero Bertelli, on a toujours la possibilité à Linis d'obtenir des albums et de vous les faire passer. Il n'y a pas de souci. On va rester en Vénétie juste pour signaler que le 7, 8, 9 septembre, Linis va de nouveau participer au Festival de Rovigo, qui est au bord du delta du Po. Et, d'une part, à une conférence sur la chanson d'auteur entre France et Italie avec M. De Angelis, qui est le directeur artistique du club Tenco, et avec Céline Pruvot, qui est une jeune chanteuse au départ lyonnaise, parisienne maintenant, qui écrit ses propres textes, ses propres chansons, et qui connaît bien la chanson italienne aussi, et la chanson française.
Et qu'on avait écouté
lors d'un hommage qu'on avait fait à Brassens et Deandré, ici à l'île d'Abo. Et on emmènera avec nous un groupe d'une Isère qui s'appelle Arautoli Fidelis, qui est composé de plusieurs chanteurs d'origine corse et qui chante des polyphonies de Corse et de la Méditerranée.
Voilà. Yeah.
Toujours dans le cadre des échanges entre le Nord-Isère et l'Italie.
On écoute seulement le début d'une chanson, Marie di te mia bella, j'aurais voulu t'épouser. Mais tu en as trouvé un plus riche que moi.
C'est une très
belle chanson. Et puis, on
coupera pour se consoler,
la fin pour
on
écouter
une
la
glace.
Recette. Voilà.
Mari di te, mia bea. Sposarte nose dami, mi volevo robarte una stea, un mondo, un sol partì. Volevo saltar sui monti e sigar te voglio ben. Non me fa paura niente quando te stringo a me.
Alors la recette.
Alors puisqu'on était dans le Piémont avec Dominique et Fossano, je vais vous donner la recette de la glace aux noisettes. Donc vous prenez 1 litre de lait, 8 cuillères de sucre, 250 g de noisettes et 3 décilitres de crème fraîche. Vous grillez les noisettes, vous les passez dans un mixeur, vous faites bouillir le lait. Ensuite, vous battez les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne plus blanc. Vous versez le lait doucement et sans cesser de battre. Vous remettez sur feu très doux, vous ne faites pas bouillir et vous tournez sans cesse jusqu'à ce que la crème fasse une sorte de nappe sur la spatule. Vous retirez du feu, vous plongez la casserole dans l'eau froide pour arrêter net la cuisson. Vous laissez refroidir, vous ajoutez la crème fraîche battue et les noisettes mixées, vous mélangez et vous battez. Vous mettez au congélateur, vous battez plusieurs fois au début de la congélation et vous vous consolez du fait qu'elle a épousé un plus riche.
Voilà, vous pouvez vous procurer les recettes auprès de Linis.
Au 04 74 93 41 28. On essaye de mettre les recettes qu'on vous donne quelquefois sur notre site.
Sur le site. Et puis, passez de bonnes vacances, éventuellement italiennes.
Bien sûr.
Et nous aurons l'occasion de nous retrouver.
La prochaine saison.
En septembre. Voilà. À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.